Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois d'octobre 2023? On a au menu de l'IA chez Scaleway, une nouvelle version de Java, le rapport sur l'état de l'art DevOps en 2023 et enfin un changement dans le support du kernel Linux. Et tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a plein d'outils, encore une fois, à te présenter. Et ce soir, avec moi pour parler Actu, j'ai Nida et c'est sa grande première. Bonsoir Nida.
Bonsoir.
J'ai aussi Nicolas qui est habitué du podcast.
Bienvenue Nida, salut à tous.
Et toutes. Et enfin René.
Eh ben, bonsoir à toutes et tous.
Et justement, puisqu'on parle de toutes et tous, c'est le moment de parler du courrier des auditrices et auditeurs. Et j'ai eu une nouveauté ces derniers temps, puisque je me suis inscrit sur ShareTable. Alors, ShareTable, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet d'avoir, le positionnement des podcasts dans divers thématiques, mais c'est pourquoi je vous en parle, parce que j'ai enfin accès aux commentaires Apple Podcasts que je cherchais depuis des lustres. En fait, j'arrivais pas à les trouver. Et ben, grâce à ShareTable, j'ai pu voir qu'en fait j'en avais une petite quantité. Et puis bon, ShareTable m'a permis aussi de voir qu'on était régulièrement vers la 30e place des podcasts dans la section technologique, mais c'est surtout quand le podcast y sort. Bon. Aujourd'hui, je vais vous donner deux messages. Donc, le premier, celui de Jérémy Ruskov, qui nous a laissé le 30 juillet 2023, sur Apple Podcast, justement, la section France. Donc, son titre, c'est Meilleur Podcast Tech. Il nous a laissé 5 étoiles. Et il nous dit, je ne rate jamais un seul épisode. Les animateurs, animatrices maintenant, sont incroyables et passionnés, ce qui rend chaque épisode informatif, et divertissant, si j'arrive plus à lire, et pourtant je n'ai rien bu. Dans la même veine, on a un autre message de Michael Becca from 92, du 4 janvier. Alors j'ai remonté, parce qu'en fait, comme il y en a plein, je vais vous les citer au fur et à mesure des mois. Donc le 4 janvier 2023. Donc un podcast hautement recommandable, et pareil, 5 étoiles. Un excellent podcast sur le DevOps et tout ce qui tourne autour. En tant qu'architecte SI, je n'ai toujours pas le temps de tout creuser et ce podcast me permet d'avoir le vernis nécessaire et surtout des vrais retours de terrain avec des intervenants passionnés et de qualité. Les opinions se confrontent parfois, mais pour le meilleur. J'écoute toujours avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Alors, merci à vous deux déjà. C'est vraiment ultra motivant d'avoir ce genre de retour parce que c'est super appréciable. Ça prouve qu'on fait pas justement tout ce travail pour rien. Et moi, ça me motive à continuer, même si en ce moment, mes co-animateurs le savent, c'est un peu dur avec ma charge de travail actuelle puisque je suis en train de monter une deuxième société. Donc, c'est un peu chargé, d'où la baisse du podcast. Bon, je vais m'arrêter là pour ma part et je vais vous laisser la parole à tous les trois pour réagir à ces messages d'encouragement et autres. Qui veut bien commencer ?
Je peux me lancer. Ouais, c'est super motivant de ce genre de message. Alors après, t'as peut-être planqué tous ceux qui disent on est nul et tout ça. Je sais pas. Ça fait plaisir et puis. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer encore pas mal de temps. Et je trouve que le rythme, même si tu dis que ça a baissé, oui, on a un peu baissé, mais ça reste, je pense que tous les mois, il y a quelque chose qui sort, donc c'est plutôt correct.
Ouais, du coup, c'est cool d'avoir des messages positifs. Et puis, si jamais vous avez des choses qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à nous le dire non plus. et venez faire un tour sur le forum pour nous expliquer plus en détail, pour qu'on puisse échanger avec vous sur ce qui va et ce qui ne va pas.
Et moi, j'aurais pas grand chose à rajouter, comme c'est la première fois que j'interviens, donc j'en reste là.
Ok, mais tu es une auditrice du podcast aussi, donc oui. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est vrai que comme moi, j'ai un téléphone Android, j'avais pas accès aux messages sur Apple Podcast, et malgré le fait que j'ai accès à Apple pour Podcaster, c'était un peu compliqué d'obtenir les messages, et donc je suis vachement content de les voir sur Shareable. C'est quand même pas mal. Il y a des avis un peu moins positifs que je passerai probablement dans l'épisode, et des demandes que je vais essayer d'appliquer, justement, notamment sur les niveaux sonores. Comme je reprends le montage, je vais essayer de faire quelque chose et de faire ce que je faisais avant, tout en gardant justement un équilibre entre le temps de travail et ce temps bénévole et mon temps de travail. Et comme tu le dis, René, il y a quand même un épisode par mois qui sort. Il y a les Actu DevOps courts qui sortent sur YouTube, que je pense je vais faire un deuxième flux de podcast pour les personnes qui veulent juste des épisodes courts. Et il y a un autre épisode qui sort dans le mois, et a priori je vais rester comme ça à 2 épisodes par mois, et on va rester comme ça. Alors, si toi aussi tu veux nous laisser un message, tu as plusieurs possibilités. Tu as Apple Podcast, enfin. Tu as Podcast Addict, tu peux aussi nous laisser des étoiles sur Podcast Addict, là je les vois tout parce que c'est mon application de podcast préférée. Tu as YouTube évidemment, et puis surtout tu as le forum, comme le disait Nicolas je crois, ou René, je sais plus, non, ou même les deux. Le forum, c'est là où on est toutes et tous, c'est là où on est le plus. Donc n'hésite pas à nous laisser un message, ça nous fera plaisir, et puis surtout si tu as des questions ou des demandes, n'hésite pas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va parler de quelque chose dont on parle régulièrement, enfin pas nous, mais d'autres personnes, et c'est bien de le voir arriver un petit peu chez Radio DevOps. Nicolas, à toi l'honneur.
Ouais, ça y est, je suis perdu, désolé. Donc, y a une grosse nouveauté qui a été annoncée via Iliad. Donc, ils ont annoncé qu'ils investissaient 200 millions d'euros pour l'IA. Donc, c'est via le groupe Iliad, donc le groupe porté par Xavier Niel. Et le premier investissement qui a été fait, c'est l'achat d'une grosse machine via la filiale Scaleway. La machine, c'est une DGX SuperPod de NVIDIA. Si ça vous intéresse, le matériel, je vous invite à aller regarder ce que c'est. C'est assez intéressant. C'est de la grosse babasse, super sympa. Oui, super cher, oui. Je sais plus combien elle a coûté. D'ailleurs, je sais même pas si c'est officiel, mais en tout cas, il y a à peu près 1000 GPU. J'avais regardé les specs techniques dans l'après-midi, je sais plus combien il y a de machines, mais c'est assez important. Ça doit être une salle quasiment dédiée dans un data center. Et du coup, il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. Le premier truc, c'est que déjà, c'est la plus grosse unité de calcul de GPU en Europe. Donc, on va enfin pouvoir faire du traitement qui nécessite ces types de processeurs en Europe, et en plus en France, puisque le data center est situé en France et Iliad Scaleway sont français. Le gros intérêt aussi, c'est que c'est dans un data center qui n'a pas de climatisation, donc en termes d'empreinte carbone, c'est déjà plus intéressant. Comme c'est de l'énergie française, a priori, c'est de l'énergie nucléaire, donc on est pas mal aussi au niveau empreinte carbone, et ça va permettre de rattraper un petit peu les Microsoft qui ont mis 10 milliards de dollars, ChatGPT qui envisage de lever 100 milliards de dollars. Alors bon, ça fait un petit peu nabo à côté, mais on n'est pas si mal que ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le 17 novembre, il va y avoir une conférence organisée par Scaleway qui va donner encore plus de détails, mais il prévoit de mettre aussi un laboratoire de recherche sur l'IA. Donc, la partie unité de calcul qui est proposée par Scaleway va potentiellement être utilisée par ce labo de recherche pour potentiellement travailler sur, j'imagine, des algorithmes, des manières de travailler avec l'IA et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette news. Christophe, j'imagine que en étant un fervent adepte de Scaleway, tu as dû voir passer ça et m'en vouloir un petit peu de te piquer la news.
Oui, je l'ai vu passer. Et, non, je t'en veux pas parce que j'ai trouvé une autre news. Tu l'auras vu. Et moi, ça m'intéresse parce que pour nos SaaS, comme vous le savez, on édite des SaaS souverains. Et justement, on se pose beaucoup la question de mettre de l'intelligence artificielle dans Frogit, notre usine logicielle, et nous pouvoir avoir notre fournisseur, puisque c'est notre fournisseur Scaleway en plus, qui propose des machines qui sont dédiées à l'IA. Pour faire tourner des IA libres, puisqu'on veut utiliser des IA libres et open source, c'est une voie quand même pas mal pour nous qui pensons à ça, qui pensons à nos clients. Alors on verra en fonction des retours clients, savoir si c'est un truc qu'ils veulent, mais a priori, c'est une des choses qu'on envisage pour l'avenir dans les 2-3 prochaines années. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, je trouve, pour nous. De nous, de manière générale, les personnes qui utilisons Scaleway. Et toi, René, alors, tu l'avais vu passer, la news ?
Non, je l'avais pas forcément vu. Et ouais, je trouve ça bien qu'il y ait un super calculateur, si je comprends bien, relativement accessible au public. Voilà, après, je pense que j'ai pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est que je trouve ça bien et que je vois qu'il y a des GPU Nvidia H100, donc en ce moment j'en entends un tout petit peu parler. J'entends parler des A100 parce que les A100 qui sont devenus, qui vont devenir plus ou moins obsolètes, voire s'ils le sont peut-être déjà, alors que c'est pas si vieux. Donc ça a l'air d'évoluer relativement vite. Et donc j'attends en parler un petit peu des H100 pour une intégration sur OpenStack. Et après, seule chose que je peux dire, c'est qu'apparemment, c'est pas si évident que ça au niveau logiciel, côté Nvidia, côté driver et tout ça, ça n'a pas l'air super facile. Du coup, je pense que le fait là d'avoir du manager, je pense que ça évite pas mal de problématiques, parce que c'est le genre de configuration, si on veut l'avoir on-prem, je pense que c'est pas forcément évident. Et voilà, je laisse la main à Nida si elle veut ajouter des choses.
Oui, parce que moi j'ai vu passer, forcément, comme j'adore la partie tout ce qui est infra, data center et tout ça, donc je suis forcément l'actualité à ce niveau-là. Après, moi je me pose la grosse question pour dans combien de temps ça va être effectif chez Scaleway, parce que les délais sont très 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 longs. On a encore des difficultés au niveau matériel. Et je sais qu'une autre entreprise d'une personne qui fait des streams à son taf, ils en ont commandé et que les délais sont apparemment longs. Donc je me pose la question. Après, c'est très intéressant. Ça permet aussi de contrer les gros clouds américains qui offrent ces possibilités-là aussi. Ou d'autres clouds, par contre, ils sont plus sur des cartes plus basses dans la gamme Nvidia avec les T4, par exemple. Donc non, c'est un gros pari qu'ils font, un très très gros pari. J'espère qu'ils vont le réussir. Et je vais rebondir sur le fait qu'il y a une conférence qui a été très intéressante au FRNOG de 2CRS6, si je ne me trompe pas, qui parlait justement de la mutualisation. Eux, ils étaient sur des systèmes équivalents d'AMD, qui étaient aussi très intéressantes au niveau infrastructure à proprement parler. Donc, ça bouge beaucoup dans le secteur.
Alors, c'est le Christophe du futur, celui qui est en train de faire le montage. C'est pour ça que ceux qui sont sur YouTube ont une image qui est moins bonne que d'habitude, parce que j'avais pas envie de brancher toutes mes lumières, ma lumière. Et là, on la voit là. Donc voilà, je suis mal éclairé, je suis désolé, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, entre le moment où on enregistrait cette émission et le moment où je suis en train de la monter, il s'est passé grosso modo une semaine et demie, mais Scaleway a sorti justement les instances. Elles sont déjà disponibles. Il y a un nouvel article de blog que je mets dans les notes de l'émission. Et moi, je constate bien dans ma console que sur Paris 2, le fameux DC5, on peut avoir et on peut lancer ces machines H100 donc pour pouvoir faire du machine learning. Donc c'est déjà disponible, contrairement à ce qu'on a pu dire, donc j'ai coupé une partie, mais c'est déjà là, donc c'est super. Scalway a annoncé un truc et puis la semaine après il l'a sorti, donc pour le coup ça c'est vraiment bien, on s'étonne entre nous de la vitesse à laquelle c'est allé, mais tant mieux pour nous, tant mieux pour Scalway, et donc affaire à suivre.
Je me demande si OVH n'a pas un truc en cours aussi, mais j'ai un doute là-dessus.
Bah, je pense que moi j'ai envie de faire une émission autour de l'intelligence artificielle, une émission live. Je pense que ça fera partie des choses qu'il va falloir que je gratte pour cette émission. Mais je pense que ça arrivera pas avant 2024. Je vous propose qu'on passe à la suite.
Si le sujet vous intéresse, j'ai mis dans les notes de l'épisode un autre podcast d'un journaliste qui a interviewé le CTO de Scalway. Et du coup, il parle plus en détail de ce qu'il compte faire, et ainsi de suite. Et il parle effectivement du fait qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement, puisque Nvidia a du mal à fournir. Voilà.
Merci pour cette précision, Nicolas. Alors, si tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue, comme tu l'auras compris, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir avec un petit don. Ça nous aide à payer l'infrastructure, donc qui permet d'héberger le forum et surtout les outils pour héberger le podcast, le super logiciel qu'on est en train d'utiliser pour enregistrer le podcast et pour que tu aies la meilleure qualité d'image et de son possible, même si en post-production, on a encore des petits problèmes, mais ça, on va le régler. Donc pour ça, il te suffit d'aller sur le site des compagnons, le compagnon-devops.fr. Ah, j'ai bugué, excuse-moi. Et tu trouveras le lien pour nous soutenir en description. Sache qu'en plus, c'est une plateforme libre que j'utilise et non pas une plateforme américaine comme Patreon, par exemple. Ouais, ça fait rire René. D'ailleurs, René, c'est toi qui vas nous parler d'un grand langage de programmation que j'ai abandonné il y a déjà longtemps.
Ouais, alors c'est pas mon domaine de prédilection non plus, mais... Et je trouvais ça intéressant de parler parce que depuis Java 8, on va dire, alors c'est Java forcément, et depuis Java 8, on va dire, il y a des releases qui sortent tous les 6 mois avec aussi la mise en place de versions LTS. Et donc là, il y a peu de temps, je crois que c'est mi-septembre, ouais, 19 septembre, est sortie la version de Java 21 qui a une LTS. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce nouveau train de release a permis une évolution plus rapide du langage. Donc souvent Java était un peu critiqué parce que ça bougeait pas beaucoup, ça prenait du temps. Et maintenant, ça évolue plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ils ont intégré plein de nouveautés et on voit que il y a un peu des choses et des bonnes idées qui sont reprises d'autres langages. Je pense un peu à Rush, je pense à Scala. Et je voulais noter un petit peu, faire une petite news pour dire que tout ça évolue et ça évolue plutôt dans le bon sens, que ça rend Java, pas mal attrayant et voilà, avec des nouveautés. Et alors je vais juste dire un petit peu ce que j'ai retenu là sur cette nouvelle version. Donc quand je dis qu'ils ont repris des concepts qui viennent parfois d'autres langages, notamment ils ont introduit tout ce qui est pattern matching. Et je vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir une syntaxe un peu plus facile pour, par exemple, déstructurer de l'information et donc prendre ce qu'on appelle un record et de récupérer chaque élément de manière assez facile et assez élégante au niveau du code. Donc ils ont amélioré pas mal ça. Ils ont aussi rajouté du pattern matching au niveau du switch pour faire des cas. Et donc c'est pareil, ça rend l'écriture de différentes branches dans un case beaucoup plus sympa à lire. Et le dernier point que j'ai un petit peu relevé, c'est aussi tout ce qui est Virtual Threads. Donc un petit peu avec ce qui se fait, on entend pas mal parler de l'asynchrone et tout ça, et des virtual threads ou green threads, choses comme ça. Donc voilà, ils ont introduit ça. Donc c'est une nouvelle API pour gérer ça, très proche de l'API pour gérer les threads standard. Et alors le but, c'est peut-être pas forcément une API qui sera forcément beaucoup utilisée par les utilisateurs finaux, mais beaucoup peut-être par ceux qui vont développer des frameworks entre guillemets autour de Java vont utiliser ça pour l'idée c'est d'avoir des services web et des serveurs web beaucoup plus performants. Voilà, donc c'est un peu les grosses nouveautés que j'ai notées. Et il y a aussi pas mal de choses qui sont en preview et dont une chose qui m'a fait un peu sourire, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses, mais Java était souvent critiqué pour être très verbeux, ne serait-ce que pour faire un Hello World. Et donc ils ont travaillé, c'est une feature qui est en preview, et l'idée c'est voilà d'avoir quelque chose de très concis pour le main. Et du coup rendre l'écriture d'un Hello World beaucoup plus simple que ce que ça pouvait l'être jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je voulais souligner un petit peu que Java, voilà, pour moi ça c'est énormément utilisé en entreprise, donc je pense qu'il faut en parler et que du coup il y a un bon dynamisme. Et j'espère que les gens vont migrer et vont utiliser ces nouvelles versions. Bénéficier aussi des nouvelles performances de la JVM parce qu'il y a plein d'améliorations de performance qui arrivent et aussi des corrections de sécurité. Voilà, je vous laisse réagir si vous le souhaitez.
Ouais, effectivement, c'est une news qui est super importante, d'autant plus que c'est la LTS, c'est quand même une étape importante dans pas mal de produits. L'histoire du main, c'est expliqué. J'ai mis aussi un autre podcast dans les notes de l'épisode, un interview de Jean-Michel Doudou chez les Cascodeurs, pardon. Et en fait, il explique l'intérêt de ce truc-là. C'est juste en termes de pédagogie pour pouvoir démarrer un projet plus rapidement sans avoir besoin d'expliquer le concept du main, de la classe et ainsi de suite. Mais clairement, c'est juste le temps de bootstrapper les premiers cours, quoi. Et même si tu développes pas en Java, c'est en tant que DevOps, normalement vous avez pas mal de composants qui tournent avec. Vous avez Elasticsearch, vous avez Rundeck, et il y a plein d'autres produits comme ça qui utilisent Java. Et du coup, tous ces produits-là vont bénéficier de toutes les évolutions. Notamment, moi, ce qui m'a pas mal intéressé, c'est tout ce qui se fait autour des threads. Et c'est très bien expliqué dans le podcast aussi, toutes les évolutions qu'il y a avec les différents types de threads, les différentes applications. Et du coup, c'est bien que Java continue à évoluer, malgré le fait que ça a été racheté par Oracle via le rachat de Sun, et que OpenJDK continue à évoluer. Et dans le podcast, ils expliquent aussi comment fonctionnent les différentes distributions. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, c'est assez intéressant à écouter aussi. Voilà, je ne sais pas si tu avais suivi tout ça, Nida.
Le monde Java, pour être honnête, c'est pas ma tasse de thé. Non, par contre, j'ai une question, c'est au niveau des serveurs Tomcat. La dernière version est prise en compte ou pas du tout? C'est la question piège.
J'imagine.
Non, vu la latence qu'on a au niveau système, dans certains cas...
Ouais, après t'as raison, c'est vrai que... Effectivement, il y a JDK, JRE, etc. qui évolue. Après, bien sûr, il faut que les applications qui utilisent la JVM soient portées. Donc, ça se fait pas toujours tout de suite. Il y a toujours un petit peu de temps entre les temps que les gens rendent le code compatible, quoi. Donc oui, c'est pas instantané. Et je confirme, pendant que j'ai la main, oui, excellent podcast qu'a mentionné Nicolas avec quelqu'un qui s'y connaît largement plus que moi en Java. Il n'y a pas photo.
Et on aura des gros gains en perf éventuellement sur les serveurs?
A priori, ouais. Un peu.
Ouais, déjà par l'asynchrone, donc ça devrait amener quand même de la perf pour tout ce qui est serveur web et tout ça. Puis ils travaillent aussi, alors pour l'instant c'est preview, mais ils travaillent quand même pas mal aussi à de la vectorisation des instructions. mettre du SIMD dans la JVM. Il y a déjà des choses qui sont faites. Et apparemment, ils avancent encore là-dessus, ils optimisent des choses. Donc oui, à chaque fois, il y a quand même des gains de performance. Si je me rappelle de l'épisode, ce qui était dit dans l'épisode que Nicolas mentionnait, entre 20 et 21, il n'y a pas eu énormément de changements, mais je crois que c'est autour de, je sais plus, c'est 17 ou 20 ou 19. Là, il y a eu des grosses avancées de perf. Mais bon, après, c'est, je sais pas comment dire, c'est un peu du win-win, quoi. Tu mets à jour ta JVM, tu bénéficies de la perf, c'est quasi automatique, quoi. Donc pourquoi s'en passer?
Ah, ça, c'est... faut demander aux développeurs.
Il y a des changements aussi au niveau du garbage collector. Alors, je pense que à notre niveau, on ne sera pas trop impacté. Par contre, ceux qui ont des consommations mémoire très très importantes, a priori, ils ont un autre garbage collector qui est capable de faire du son. Enfin, le mécanisme de recycler la mémoire plus souvent en figeant beaucoup moins l'intégralité de la machine. C'est de la microseconde pour... parce qu'en fait, quand on fait un garbage collector, il faut faire une image à un instant T de tous les objets en mémoire. Et en fait, c'est souvent ça qui bloque et qui ralentit les process Java. Et là, ils ont fait en sorte que ça dure très très peu de temps.
Ouais, ça a énormément progressé parce qu'effectivement sur des grosses instances avec plusieurs teradrames, le stop the world du garbage collector il pouvait durer assez longtemps, en parlant en secondes parfois. Du coup il y a eu énormément de travaux là-dessus pour déjà dans les précédentes versions pour vraiment améliorer ça, et puis là ils ont encore petit à petit ils avancent sur le sujet. Voilà. Après, il y a plusieurs garbage collectors, donc faut faire attention, faut choisir celui qui est le mieux adapté en fonction de ce qu'on veut faire. Là, ça devient assez touchy et pour le coup, c'est quand même du boulot côté souvent un peu sysadmin. Donc, je pense, c'est intéressant de connaître un peu ces aspects-là et de s'y plonger quand parfois il y a des soucis.
Ouais, puis je pense que c'est bien un sujet sur lequel on peut faire du vrai DevOps, parce que si les côtés système et côté développement, les deux travaillent bien ensemble, je pense qu'il y a moyen de bien optimiser et d'améliorer l'application de manière globale.
Ouais. Malheureusement,
malheureusement, moi, dans mon quotidien, c'est beaucoup de gens qui sont encore figés à la 8.
Oui. Après, oui, dernière petite chose, c'est que il y a aussi GraalVM. Donc GraalVM, c'est pour c'est un compilateur pour faire des applications natives, donc plus utiliser la JVM, et donc sortir un exécutable pour la plateforme. Et donc ça aussi, ça a amené des choses et ça a bien bougé. Et donc je trouve que c'est un écosystème qui comme souvent dans le libre, il y a des choses qui sont vraies à un instant T, mais là, ça a bien évolué, et souvent, et puis plutôt dans le bon sens. Donc je pense que c'est bien de le souligner.
Ouais, moi qui suis comme Nida, qui me tient éloigné de Java depuis bien longtemps, j'avoue que je suis agréablement surpris, et j'attends avec impatience que Elasticsearch devienne un peu supportable, parce que là, je trouve qu'il est un peu insupportable avec sa consommation de mémoire, mais bon, c'est peut-être parce que... Bref, non, je dis ça parce que on utilise Elasticsearch pour notre outil de ticketing, et ça nous fait un peu... ça nous fait un peu dur de voir que c'est Elasticsearch qui consomme le plus sur la machine que l'outil de ticketing lui-même. Mais bon, bref.
Après, faut pas rêver non plus, Christophe. C'est pas toujours quelque chose qui consommera beaucoup de mémoire.
J'espère. De toute façon, il y a des gens qui trollent sur GitLab et le Ruby, donc je peux troller sur Java, mais bon, bref. Je crois que vous avez un peu tout dit, que j'ai pas grand-chose à ajouter. En tout cas, la seule chose que j'ai pas compris, c'est combien de temps dure la LTS chez Java. Vous le savez, vous ?
J'avoue que j'ai oublié.
Ça dure 2, 3, 4 ans, 5 ans.
Je vais regarder, je vais te dire.
Je suis en train de regarder
ça
aussi.
Ça dure longtemps.
Si c'est comme Ubuntu et ses 10 ans, puisqu'on en avait parlé déjà dans un épisode, ce serait bien.
Donc là, Java 21, ça commence le support au 19 septembre 2023, et la fin du support, c'est septembre 2028.
Voilà, c'est ça.
Et si tu payes donc Amazon, c'est en 2030, et si tu payes Oracle, c'est en 2031.
Donc c'est 5 ans en fait, le LTS, c'est bien.
En fait, c'est tout l'objet des distributions dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la partie OpenJDK, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc c'est la spec en tant que telle de Java, elle sera supportée jusqu'en 2028. Donc, charge à tous ceux qui font les distributions de faire cette maintenance. Mais si tu payes Amazon, tu as un support jusqu'en 2030. Si tu payes Oracle, jusqu'en 2031 et ainsi de suite. Et eux, en fait, ils s'engagent à faire les backports des fixes ou de corriger dans cette distribution-là. Par contre, tu la retrouveras pas dans l'OpenJDK.
Oui, forcément. C'est sous licence.
Là, je suis en train de regarder. Donc, l'OpenJDK, sa end of life est prévue pour le 19 mars 2024. L'OpenJDK, et par contre, on passe sur la Java, du moins l'Oracle Java, JDK, on est à 2031. En support étendu. Et on a vraiment une très très grosse différence sur le support.
Et ben... c'est marrant parce que moi, je vois 2028.
2028,
on remettra dans les notes.
En fait, c'est 2028, c'est ce qu'ils appellent c'est le premier support et après c'est l'extension de support. Et je pense que c'est une extension qui doit être payante.
Mmh. Ah oui, ça oui.
C'est ma petite marotte. Je déteste les systèmes qui sont end of life.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Eh ben, écoutez, si vous avez des pistes, on mettra dans les notes de l'épisode. Et à toi, cher compagnon qui nous suit, si tu veux discuter de ça avec nous, tu peux rejoindre la communauté et venir discuter sur le forum, puisqu'on en a parlé au début de l'émission. Les Compagnons du DevOps, c'est aussi un forum, c'est pas qu'un podcast, une chaîne YouTube, c'est aussi un forum où on discute et où on est tous et toutes en train de discuter. On est déjà plus de 1500 sur le forum, donc ça augmente de mois en mois. Et il y a toujours des nouvelles et nouveaux qui arrivent tous les jours. Et puisqu'on parlait de LTS, on va parler de notre petit chouchou à tous et toutes. Je crois, Nida, tu vas nous parler d'une augmentation, je crois.
C'est au niveau du kernel Linux. Donc certains ont déjà vu la news. Donc le kernel Linux avait un support qui était de, j'ai peur de dire une ânerie, qui était de 6 ans et qui repasse à 2 ans. Donc on passe, on réduit, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que le support noyau, à la base, il était de 2 ans, il l'avait étendu il y a, là je crois que je vais dire une connerie, une dizaine d'années, et là ils reviennent à 2 ans parce que les équipes de mainteneurs sont épuisées, sont sur les rotules, et il y a eu apparemment des départs dans certains devs qui faisaient de la maintenance des noyaux. Par contre, il faut pas du tout s'inquiéter pour les gens qui sont sur des distributions du monde Red Hat où on vise quasiment 10 ans. Le noyau sera toujours maintenu à jour, mais il sera maintenu à jour par Red Hat, pas par les mainteneurs kernel. Dans notre quotidien, ça va pas forcément changer grand chose. Faudra juste avoir un peu plus de vigilance sur les OS et les médias les maintenir à jour au niveau comment dire au niveau de la distribution si on s'amuse à compiler son propre kernel on, oui là vous vous exposez à quelques petits soucis en prod. Voilà.
Eh ben c'est moi qui avais mal lu, du coup c'est une diminution. En effet, je crois savoir que les distributions de toute façon mettent à jour le Linux, enfin le noyau Linux, assez régulièrement. C'est vrai que 2 ans ça fait court, mais en même temps, si chaque itération dure 2 ans et que, alors je sais pas à quelle itération on est aujourd'hui, je crois qu'on a la 6. C'est ça la 6.
6.5, je crois, 6.4 ou 6.5 qui doit arriver.
Et par contre, je ne me rappelle plus, on a une itération par an ou un peu moins?
Non, c'est les
trimestres.
Une version majeure. 6 semaines, je crois. Une version majeure.
6 semaines, je crois. Mmh. Je dis pas de bêtises.
On n'a pas une version après... majeure toutes les 6 semaines, quand même.
Non. Si, ça tourne vite. Hein.
Ça, en fait, depuis qu'on a eu le changement de numérotation avec le kernel 2.6.x. je ne sais pas combien, mettait le nombre de numéros pratiquement à la décimale de pi, c'était devenu illisible. là, on est déjà au noyau 6.5. Et le noyau 6.6, Relays Candidate, est déjà en place.
D'accord.
En moyenne, tu as 63 jours, entre 63 et 70 jours pour le sortir à peu près.
Mais là, on parle de la version mineure du coup, pas de la version majeure. On n'annonce pas la version 7, puis la version 8.
En fait, sur Linux, ça ne veut pas dire grand-chose, le majeur, parce qu'en fait, il le... Comment dire, ils l'incrémentent quand ils ont un peu envie en fait. Donc du coup, quand les majors changent, c'est une nouvelle version, avec quand même un peu de tout quoi. Et après, quand ils décident qu'il y a vraiment une rupture et il n'y a pas de critères, tu vois, super super clair, c'est un peu au bon vouloir de Linus qui dit bon bah à un moment on fait évoluer le majeur.
Ok. D'accord.
Et puis il y a des périodes, il y a énormément de contributions qui arrivent d'un coup, donc ce qui peut faire reprendre du retard sur la sortie du kernel. Et puis il y a des fois, ils ont tellement tout mis que la version précédente sera beaucoup plus light. Mais là actuellement, la version LTS du kernel, c'est la 6.1.56. Et elle aura une fin de vie, je sais plus quand, je crois dans 2 ans il me semble. Je cherche l'info, mais...
2027, moi, je vois.
La 6.1, moi, j'ai 31 décembre 2026.
Oui. Ouais. Et pour ceux qui payent un support que je découvre, le CIP, c'est jusqu'à après 2033.
Bon, et moi, je vois qu'il va falloir que je mette à jour mon système d'exploitation puisque je suis sur un noyau 5. 4, autant dire antédiluvien, mais en même temps, je suis sur une vieille version d'Ubuntu et j'ai la flemme de la réinstaller parce que je dois réinstaller tout mon PC, donc c'est vrai que c'est pour ça.
La 5.4, sa fin de vie est en 2025.
Ça va, il me reste un petit peu de temps, mais, j'ai quand même des problèmes avec les sources de paquets quand même.
T'es sur une LTS de chez Ubuntu, si je dis pas de bêtises.
Ouais, je suis sur une 18.4. Ça commence à être un peu vieux quand même. Hein.
Ouais, ça doit être encore supporté un petit moment. Quoi.
Ouais, mais... Voilà.
Oui, mais
j'ai des soucis.
T'es pas à triste dans le sens où Ubuntu fait le travail pour les failles de sécu et compagnie. Après, exactement. Tu bénéficies pas des avancées qui sont dans le noyau. Du coup, c'est un peu dommage, mais...
Oui, ben j'ai surtout des problèmes avec tout un tas de programmes tiers qui marchent mal, des mises à jour qui marchent mal, bref. Il va falloir que je reprenne ce PC de fond en comble, de toute façon. Nicolas, tu as un avis là-dessus?
Oui, j'ai encore des serveurs qui traînent en version 4 quelque chose, donc tu vois, c'est... Mais c'est des versions LTS de distribution que je prends toujours, donc quand ça commence à être trop dépassé, je mets à jour, mais bon, c'est comme toujours, quand on fait de l'infogérance, ton client n'est pas toujours d'accord, parce que y a forcément des applicatifs à bouger, machin, etc. Et la peur de tout casser, même si tu as des environnements de test dans tous les sens, et ainsi de suite. Mais bon. Mais ouais, bah, c'est cool que ça continue à évoluer. Après, je dois avouer que moi, le noyau Linux, ça fait longtemps que je m'en préoccupe plus. Ça marche. C'est même plus une question que je me pose. Et puis, on se préoccupe encore du noyau Linux quand on fait du Docker. C'était un petit troll gentil, mais non, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle que ça continue à bouger. Surtout si c'est pour éviter d'épuiser les développeurs. Et bon, bah, c'est. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Bah, en fait, tu trolles, mais pas tant que ça, parce que oui, on se préoccupe du noyau Linux quand on fait du conteneur, parce qu'il y a certains noyaux qui ne permettent pas de faire tourner certains conteneurs. Donc, il faut avoir quand même des versions un petit peu. J'ai déjà vu des trucs qui permettaient pas forcément de faire tourner ça comme on voulait avec Docker, par exemple.
Alors là, faut vraiment changer de distribution parce qu'elle doit être vraiment ancienne.
Écoute, j'ai vu ça et je dois te dire que oui, c'est important. C'est important. Mais oui. C'est vrai qu'on a moins de problèmes que certains autres systèmes d'exploitation. Nous ne les citerons pas ici.
En fait, c'est le noyau Linux, ça peut vous paraître anecdotique, et d'autant plus quand vous faites du Docker, mais si les gens se rendent pas compte, mais avec une version plus récente du noyau, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux marcher avec Docker, et je pense qu'il y aura à la fois plus de performance et à la fois plus de sécurité, puisque bah, ils améliorent au fur et à mesure, puisque Docker s'appuie sur des trucs du type ces groupes et ainsi de suite. Donc je disais ça en rigolant du fait qu'on ne s'en préoccupait pas, mais en tant qu'admin 6, c'est important de regarder quand même.
Quand même une pièce maîtresse.
Voilà. Et j'ose espérer que dans notre auditoire, nous n'avons pas que des administrateurs système, mais aussi des développeurs, puisque le podcast s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie DevOps.
Ainsi que des développeuses et des administratrices système. Je te confirme, on a quand même des personnes qui font du développement, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent sur le forum régulièrement. Ça arrive régulièrement. D'ailleurs, puisque on n'a peut-être pas assez de développeuses et de développeurs, moi je te propose, cher auditeur et auditrice, de partager ce podcast à ton ou ta développeur, développeuse préférée. Tu lui envoies le podcast et sache aussi que ce podcast, il est en licence libre, en CC by SA. Tu as le lien de la licence dans les notes de l'épisode ou dans la description YouTube. Ça veut dire que tu peux prendre des bouts, tu peux le mettre dans tes formations, tu peux le mettre dans tes talks, tu peux en faire ce que tu veux dans tes documentations. Par contre, il faut juste nous citer. Et en plus, si tu peux nous envoyer un petit message pour nous dire que tu l'as fait, ça nous fera toujours bien plaisir. Donc, je vais te parler du State of DevOps Report 2023, autrement appelé le rapport sur l'état de l'art du DevOps en 2023. Alors, j'en parle presque toutes les années, mais en fait, c'est le rapport annuel de l'Institut de recherche et d'évaluation DevOps de Google Cloud. Profites-en, je parle pas souvent de Google, donc c'est pour dire du bien en plus. Donc voilà, son petit nom à cet organisme, c'est le DORA. Et donc le DORA vient de sortir son rapport en 2023. Alors ce rapport, il est très intéressant et très important parce qu'en fait, il regroupe les données de plus de 36 000 professionnels au travers le monde. Donc c'est vraiment un rapport qui nous permet à nous de savoir c'est quoi qui se passe dans le DevOps, c'est quoi les bonnes pratiques et quel résultat on peut atteindre. Et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant. Alors, je te laisse le lien évidemment en description du rapport. Mais qu'est-ce qu'on y apprend cette année ? Alors, il y a plusieurs choses. Des choses dont je me fais le porte-voix régulier, mais d'autres plus intéressantes encore. Je t'ai fait une petite synthèse sans prétention des points que j'ai estimés les plus intéressants du rapport, justement. Alors, la première chose, c'est l'impact culturel. Donc quand on a une culture dans l'organisation qui est saine, c'est en fait un point essentiel pour la réussite du DevOps dans ton entreprise. Donc si tu veux mettre en place ton mouvement DevOps dans l'entreprise, tu dois avoir une culture qui est importante. Les équipes justement avec une culture générative ont une performance qui est supérieure à 30% que celles qui n'en ont pas. Alors tu vas me dire c'est quoi une culture générative ? Bon, une culture générative selon le DORA, c'est une culture où il y a un niveau de confiance élevé qui met l'accent sur le flux d'informations. en gros, tu la partages et tu as un flux dans ton entreprise. Alors tout ça, c'est expliqué sur le site dora.dev, qui est le site qui explique tout un tas de concepts assez assez précis justement du rapport. Le rapport, il nous parle aussi de des équipes qui se concentrent sur l'utilisateur. Ces équipes-là, elles ont une performance qui est supérieure à 40% de celles qui ne font pas attention à leurs utilisateurs. C'est intéressant de le noter. Mais surtout, il y a l'importance de la documentation, ça on le répétera jamais assez. Une documentation de grande qualité va permettre d'améliorer les capacités techniques de ton équipe. Je sais, ça fait un peu on enfonce des portes ouvertes, mais l'idée, c'est que le rapport, il est là pour prouver tout ce qu'on dit et ce qu'on répète à longueur de podcast. Donc, cette documentation, elle va conduire les équipes à être plus performantes de 25% par rapport à celles qui ont une documentation de faible qualité. Alors, le point qui m'a le plus intéressé, c'est la répartition du travail de manière équitable. Alors, le rapport, il parle de personnes sous-représentées et des femmes, sous-entendu, je trouve que c'est une manière très élégante de dire les personnes qui ne sont pas des hommes blancs. En fait, ces personnes-là, elles ont des niveaux de burn-out plus élevés. Et c'est souvent dû à une charge de travail plus répétitive. Ça veut dire que les personnes qui sont sous-représentées, elles signalent justement dans les données qu'elles ont 24% de burn-out en plus que les autres et qu'elles font 29% de travail répétitif en plus. Donc là, c'est des statistiques qui sont appuyées. Donc ça doit nous interpeller sur ce truc-là. Alors, je ne sais pas si en Europe, c'est le cas, parce que on connaît pas. Enfin, moi, je ne connais pas la répartition des personnes qui donnent les données au Dora, mais on doit s'interpeller là-dessus. Je pense que c'est essentiel. Alors, il y a aussi l'importance de la flexibilité de l'infrastructure avec le cloud, puisque utiliser donc les caractéristiques du cloud comme l'élasticité, le fait de pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de serveurs, etc., ou le libre service à la demande des ressources dans le cloud, ça augmente la flexibilité de ton infrastructure. Il faut que j'arrête de regarder le retour et que je regarde la caméra. La flexibilité, donc, elle conduit à une performance supérieure de 30% par rapport aux organisations qui n'utilisent pas cette flexibilité-là. Il y a un point aussi sur les indicateurs de performance qui est intéressant. Et ils nous disent que les indicateurs de performance comme le temps de conduite du changement, la fréquence de déploiement, le taux d'échec des changements et le temps de récupération en cas d'échec de déploiement sont hyper importants. C'est tellement important que moi, je te conseille, si tu le fais pas déjà, de les superviser et d'en tirer des conclusions. Tu verras, c'est vraiment bien. Nous, on n'a pas tous ces indicateurs-là et je pense que petit à petit, on va les mettre en place. Alors, un sujet à la mode en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. On en a parlé au début de l'épisode. Donc, l'intelligence artificielle, ça a pas forcément un impact important sur les pratiques DevOps parce que c'est pour l'instant dans les balbutiements. Donc, le rapport Dora valide le fait que pour l'instant, l'IA, c'est pas encore ça, ça va pas nous remplacer. On pourra en parler un jour. L'amélioration continue est la clé de la performance. Et donc, évidemment, on en parlait juste avant, c'est important de mesurer les résultats et de faire des ajustements en fonction de ces mesures. Donc ça, je le répète à longueur de cours et de formation, comme quoi je dis pas forcément que des bêtises. Et ça me fait penser qu'il va falloir que je mette à jour ma formation. Donc, la question rituelle que je pose à chaque fois que je parle du rapport Dora, déjà, est-ce que vous le connaissiez, ce rapport, et ou est-ce que vous le lisez chaque année comme moi? Je vais commencer par Nida, du coup.
Non, pas du tout. J'ignorais même son existence.
Et pourtant, ça fait 3 ans que j'en parle régulièrement, mais comme quoi, il est jamais trop tard. Non.
Après, j'ai pas écouté tous les épisodes.
Je sais pas, tu as quelque chose à nous partager par rapport à ce que j'ai dit ou est-ce que ça t'interpelle ?
Non, pas plus que ça. Après, parce que j'ai pas assez de recul en ce moment sur ça. C'est là, je suis un peu trop dans ma tambouille personnelle et là, je préfère rien dire parce que mon avis sera faussé.
Ça marche. Nicolas, un avis ?
Oui, bah c'est effectivement, ça nous conforte dans le fait que les méthodes DevOps permettent d'améliorer tout dans son ensemble. Et ce rapport-là permet d'avoir des métriques pour convaincre les équipes, les entreprises, les personnes qui ne le seraient pas encore. Et bon, bah effectivement, ça met aussi en évidence des trucs tout bêtes comme quoi les trucs répétitifs amènent des burn-out. De la documentation, c'est important. Bah oui, surtout si vous voulez changer d'entreprise, mieux ça sera documenté, plus facilement vous pourrez partir. Quand vous êtes en vacances, vos collègues galèrent moins. Et bon, bah oui, c'est mais les objectifs, le centrage sur l'utilisateur, en fait, c'est ça. C'est une métrique commune et ça devrait être la métrique partagée par toutes les équipes. Et parce que au final, pourquoi on travaille ? On travaille pour délivrer un service à un utilisateur. Donc, mais bon, j'espère que j'enfonce des portes ouvertes et que nos auditeurs ont conscience de tout ça. Et si vous n'en avez pas conscience parce que vous découvrez le mouvement DevOps, je vais y arriver, bah, lisez ce rapport-là, ça va vous donner une idée. Et si vous avez besoin de convaincre des gens, bah, ça va vous donner un petit peu plus de matière pour tout ça. Voilà. Et je vais arrêter de bouffer mes mots et je vais laisser ma parole, la parole à René pour que il puisse nous donner son avis.
Oh bah je pense que vous avez un peu tout dit. Après, oui, ben, bah, je pense que ça peut se résumer quand même assez bien en disant que quand les relations dans l'entreprise sont plutôt bonnes entre les personnes, c'est plus agréable de travailler. Donc, bah, souvent ça se passe mieux et effectivement quand on délivre, par exemple quand on fait une mise en production, si elle se passe bien, bah, c'est quand même plus sympa que si à chaque fois c'est la catastrophe et c'est l'enfer. Donc voilà, ça me paraît assez logique. Après, je pense qu'on est aussi tous un peu biaisés ici parce qu'on est assez convaincus par la philosophie DevOps. Donc voilà.
C'est vrai que sinon on ferait pas un podcast qui s'appelle Radio DevOps, mais c'est vraiment important de rappeler tout ça parce que en plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on parle assez peu d'automatisation dans le rapport. On en parle dans le rapport, mais les points saillants ne font pas remonter forcément l'automatisation. Automatisation qui est l'un des points essentiels de discussion sur les réseaux sociaux de le DevOps, c'est de l'automatisation au déploiement. Ce n'est pas que ça. Il y a tout un tas d'autres pratiques et de bonnes choses autour qui vont accélérer encore justement les déploiements et tout ne repose pas sur l'automatisation. Et c'est ça qu'il faut justement en déduire de ces rapports qui sortent à longueur d'année. Oui, Nicolas.
On peut faire du DevOps sans automatisation et on peut faire de l'automatisation sans faire de DevOps. Mais si on fait du DevOps en automatisant le travail de tout le monde, ça fluidifie énormément les choses. Moi, j'ai mis en place de l'automatisation sur la partie pipeline de vente où ma collègue, et en fait, bah, j'ai récupéré les différentes API pour automatiser son travail. Moi, ça m'a pas fait gagner de temps, mais elle, ça lui a fait gagner énormément de temps. Et du coup, elle a plus de temps à me consacrer sur d'autres trucs. Donc, DevOps, c'est aussi faire évoluer l'entreprise et aider un petit peu tout le monde.
Là, tu me fais plaisir parce que quand je parle du DevOps et du fait que c'est un mouvement qui rentre par la tech mais qui doit s'étendre dans toute l'entreprise, tu viens de me donner un exemple qui est la preuve vivante que ça marche. Parce que en effet, l'automatisation et l'amélioration continue, la coopération, si c'est partagé dans toute l'entreprise, c'est là où les entreprises elles vont devenir encore plus performantes.
Bon, c'est facile. On est aujourd'hui, on est 5. À l'époque, quand je l'ai fait, on était 4. Donc.
Ouais, mais c'est même dans les grandes entreprises, c'est important, je pense. René, non ?
Non, bah j'acquiesçais en disant que oui, je pense que après c'est peut-être plus difficile effectivement dans une grande entreprise de mettre en place cette culture-là parce que ben il y a plus de monde à convaincre. Forcément, il y a des réticences, etc. Donc, du coup, il y a plus de politique. Donc voilà, c'est certainement beaucoup plus compliqué dans des grandes entreprises, mais on peut quand même faire des choses.
C'est en effet plus compliqué et c'est là où on a le plus de problèmes et c'est de là où est né le mouvement DevOps. Parce que justement, on a ces silos et faut arriver à les casser. Et c'est vrai que il faut se faire accompagner. Alors quand on est une grande entreprise, je pense naïvement que l'entreprise ne peut pas elle-même arriver à passer au mouvement DevOps. Il faut qu'elle soit accompagnée par d'autres personnes qui les aident à bien mettre en place la culture, à bien fluidifier les rapports, puis surtout apporter un point de vue extérieur pour assainir certaines situations qui peuvent être complexes. Et je sais qu'on est plein à justement pouvoir aider les entreprises là-dessus, les grandes, je dis.
Moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise avant l'arrivée du mouvement DevOps ou à peu près à ce moment-là. Et en fait, on travaillait avec des systèmes de tickets où on devait se refiler les trucs à faire dans des tickets. Alors, c'était très chiant, laborieux et ainsi de suite. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je contactais les équipes et je leur demandais de quoi ils avaient besoin pour travailler beaucoup plus rapidement. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Tout le monde a ses petits scripts dans son coin. Et quand les équipes sont intelligentes, ils se partagent les scripts entre eux et ils font évoluer le truc. Et en fait, moi, je passais beaucoup de temps à la machine à café pour leur expliquer comment moi je travaillais. Et en fait, quand ils avaient besoin d'input pour traiter mes tickets, moi, je leur filais des fichiers CSV, des fichiers XML, tout ce qu'ils voulaient. Donc, c'était plus du CSV parce que c'est plus facile à scripter. Mais en fait, il me disait j'ai besoin d'une colonne avec ça, d'une colonne avec ça, etc. Et comme j'avais des tickets qui prenaient en entrée dans les 200 machines, je leur envoyais un truc et eux, ils avaient exactement le fichier qui pouvait rentrer dans leur script. Ils n'avaient pas besoin de le retravailler. Du coup, ils m'aimaient bien parce que c'était des gros tickets avec beaucoup de trucs à faire, mais qui pouvaient lancer en 5 minutes. Et du coup, pendant que ça se traitait, on pouvait aller prendre un café pour discuter. Donc, c'est la philosophie DevOps, c'est aussi ça. C'est travailler ensemble pour qu'il y ait moins de friction dans le traitement des infos, quoi.
Merci, Nicolas. Alors, tu l'auras compris, si tu débutes dans le mouvement DevOps, mais que tu veux te forger une culture DevOps, eh ben sache que j'ai une formation pour toi. Cette formation, ça s'appelle DevOps Mindset, ça va t'aider justement à travailler ta culture DevOps, la coopération et tout un tas de choses liées à l'amélioration continue. Tu verras, c'est le premier lien en description et d'ailleurs, je vais devoir la mettre à jour avec le nouveau rapport d'Aura puisque j'en parle justement dans cette formation et je cite des chiffres pour appuyer les résultats qu'on peut obtenir avec le DevOps. Bref, la section que tout le monde attend, c'est les outils. On va parler de plusieurs outils et c'est René qui va ouvrir le bal.
Oui, alors un petit outil sans prétention, comme souvent écrit en Rust. Donc c'est un outil qui s'appelle Grex et c'est un petit outil pour s'aider sur un truc qui fait très peur, c'est les Regular Expression. Et donc ça permet de entre guillemets rentrer les tests, ce sur quoi on veut que la regex match. Et ça nous propose la regex au format Perl. Donc format Perl pour les regex, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans beaucoup de langages. C'est un truc un petit peu standardisé pour les regex. Voilà, donc c'est un outil que j'ai trouvé pratique et voilà, je voulais le mentionner.
Ben écoute, merci René, faudrait que j'essaye ça. Après, c'est vrai que je suis pas très outil en ligne de commande pour m'aider sur ce genre de truc. Je suis plutôt outil web, mais pourquoi pas. Nicolas, tu connaissais, toi?
Pas du tout, mais je vais m'empresser de l'essayer aussi.
Et Nida, tu le connaissais, cet outil-là?
Je l'avais vu passer dans les clones en Rust, mais jamais testé.
On va tous tester cet outil-là. Alors moi, je vais te parler d'Atlas. Atlas, c'est un outil qui va te permettre de faire des migrations. Alors les migrations, si tu sais pas ce que c'est comment est-ce que tu vas pouvoir changer ton schéma de base de données, ajouter des colonnes dans des tables, changer changer ta base de données. On utilise les migrations parce que c'est un outil qui permet souvent de mettre à jour ta base de données de manière automatique sans forcément envoyer un fichier SQL. Et donc Atlas, il a l'avantage d'être complètement agnostique par rapport au langage, donc il n'est pas lié à un langage, contrairement à plein d'ORM justement. Alors lui, c'est pas un ORM, mais ça peut être un outil sympa pour justement faire évoluer ta base de données, tout en décorrélant ça de ton langage de programmation. Est-ce que vous connaissiez Atlas ? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ? Alors je vois des têtes, toutes les têtes sont en train de faire non sur YouTube. Alors si t'es en train d'écouter le podcast, tu le vois pas, mais les gens qui sont sur YouTube ont vu tout le monde dire non de la tête. Du coup, c'est un outil en plus, je trouve, qu'on va pouvoir conseiller à nos équipes de développement pour faire des migrations. Souvent, moi, j'ai des équipes de développement qui me disent comment je fais des migrations, Christophe ? Eh ben, ça me fera un outil de plus à leur donner. Et je pense que je vais commencer par tester et voir si ce que ça donne et leur en parler. Est-ce que
après,
ouais, vas-y René.
Pardon, excuse-moi. Après, ouais, après il y a d'autres outils qui font ça, mais effectivement pas forcément langage agnostique. Il y a LiquidBase par exemple, mais c'est vrai que c'est plutôt orienté Java si je dis pas de bêtises. Donc là, ça peut être intéressant peut-être pour des langages où ces outils n'existent pas. Donc oui, je pense que ça peut être intéressant.
Ouais, est-ce que au moins vous étiez, je pense que vous connaissiez toutes et tous les migrations et vous en avez déjà mis en place lors de déploiement d'outils.
Oui, oui, bah, j'utilise quasiment que des frameworks qui utilisent le système de migration et quand je suis obligé de passer des scripts SQL à la main, ça me fait toujours mal d'imaginer que les développeurs n'ont pas utilisé un truc qui génère les migrations pour eux parce que c'est quand même la base. Quoi.
Voilà, tu pourras leur conseiller Atlas. Nida, toi, tu as déjà passé des migrations sur des déploiements ou
Oui, mais c'était plus la partie dev était très peu concernée au final. C'était plus la partie infra.
D'accord. C'est-à-dire que c'est vous qui écriviez les migrations.
C'était des migrations de VM ou des montées de versions de VM. Après, derrière, on n'avait pas forcément... La partie logicielle à proprement parler, on s'en occupait vraiment pas du tout.
D'accord, pas de migration de base de données non plus.
Si, on la faisait après un MySQL dump et un restore, c'est rapide. Mais tout ce qui s'ensuit derrière, on traite pas.
Ok.
Là où je suis passé en mission, ça fonctionnait comme ça. Après, c'est le côté peut-être petite équipe et on travaille parfois un peu trop à l'ancienne.
Bah écoute, j'espère que ces outils vont justement peut-être t'aider à faire passer des messages à tes équipes.
Bah déjà, j'essaye avec d'autres outils.
Ouais, ouais, je comprends. Nicolas, tu vas nous parler d'un petit outil qui me semble super intéressant.
Ouais, c'est un outil qui s'appelle Webhook. Alors, avec grande surprise, c'est un truc qui vous permet de générer des webhooks. J'ai eu besoin de lancer un script suite à un GitHub Actions et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit truc en Python ou en Go. Puis je me suis dit, mais en fait, ça existe peut-être déjà. Et bah, ça existe déjà. Et bah, du coup, ça se configure super facilement et ça permet même de gérer de l'authentification, de récupérer des paramètres, ainsi de suite. Et je vous incite à regarder parce que moi, je m'en sers pour faire de la CD, pour faire du build automatique de package Debian. Et du coup, bah, c'est super sympa, donc allez regarder. Et puis désolé pour l'interruption, ceux qui sont sur YouTube, voient les perturbateurs.
En effet, Nicolas, des perturbateurs à quatre pattes, on les a déjà vus dans le précédent épisode. Ça frotte sur son micro. Moi, je suis curieux de tester ça. Je ne savais pas que ça existait, donc je vais pouvoir aller tester ça.
Ouais, c'est pas mal pour faire de la glu, ouais, ça a l'air pas mal.
Tu veux faire de la glu avec ça ?
Oui, enfin, voilà. C'est notre métier un peu de faire de la glue entre les différents morceaux là.
Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un GitHub Action ou un GitLab, enfin un pipeline GitLab, en fait, ça vous permet de déclencher un webhook et de le cacher totalement de la partie publique. Et c'est notamment comme ça que moi je l'utilise et bah, du coup, c'est plutôt pas mal quoi.
Eh ben merci Nida, quelque chose à ajouter là-dessus ?
Non, rien de spécial.
Non, rien de spécial. Eh ben écoute, René, tu vas nous parler d'un outil que je l'ai déjà vu, mais je l'ai jamais testé.
Ouais, je pense que c'est un outil dont on a peut-être déjà parlé parce que bah, c'est un outil pour faire des schémas, voilà, un petit peu présenter des idées, voilà, faire des croquis, etc. Et alors peut-être que je suis désolé si je tombe peut-être un peu dénu, mais apparemment ils ont fait des mises à jour depuis, et j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité de collaboration maintenant qui a été vraiment, je trouve, bien développée. Ça ressemble un peu à un logiciel qui est propriétaire, qui s'appelle Miro. Souvent les gens connaissent plus ce truc là où ben voilà, en espèce de tableau blanc, et chaque intervenant peut dessiner ou mettre, donc ça peut servir dans des réunions agiles ou des choses comme ça, de rétrospective, enfin voilà, ça servir dans plein de cas, et ben du coup là je trouve que c'est une bonne alternative qui est libre. Et l'autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont l'air d'avoir attaché une pas mal de librairies avec ben, des symboles pour le cloud, pour pas mal de choses. Et voilà, j'étais agréablement surpris de voir comment ça évoluait, parce que jusqu'à maintenant c'était un peu basique, et là ça, je trouve que il y a un réel attrait ben, de cet outil. Et voilà, j'espère que voilà, que je suis pas le dernier à m'apercevoir de ça, mais si vous voulez tester, n'hésitez pas.
Alors moi je connaissais, j'avais pas testé, parce que nous on utilise Draw.io qui est inclus dans notre Nextcloud, et c'est vrai que j'aimerais bien que Calidro soit aussi inclus, parce que j'aime beaucoup l'esthétique des schémas qui sont faits. C'est des schémas qui ressemblent à quelque chose qu'on a dessiné à la main, et je trouve que ça donne un cachet qui est quand même vraiment sympa au schéma.
Après Draw.io, enfin, il est super. Après, c'est plus vraiment du schéma, mais par contre, il n'y a pas la collaboration comme en temps réel, comme sur Escalidro maintenant. Donc c'est quand même un gros plus. Enfin, suivant ce qu'on veut faire, ça peut être un gros plus pour Escalidro.
Je suis d'accord. Tous les outils qui permettent de faire de l'édition coopérative, c'est toujours un plus. Nida, Nicolas, vous...
Je vais te rassurer, René. Moi, je ne connaissais pas du tout, mais même pas Escalidro. Donc,
D'accord. Oh, bah, cool.
Moi, je connaissais pas du tout, et j'avoue que ça m'intéresse. Surtout qu'en ce moment, je fais beaucoup de schémas.
Est-ce que, justement, René, ça, tu peux exporter tes dessins?
Alors, j'imagine, parce que sinon, ça serait un peu dommage. Donc, je pense que... Alors, autant Draw.io, j'ai beaucoup plus utilisé, je suis sûr. Escalidro, j'imagine, ouais, il me semble que tu as un export PDF ou quelque chose comme ça. Ou PNG, il y a forcément des choses.
Exporté en PNG ou en SVG, avec un fond ou pas, en dark mode ou pas, et avec la scène incluse. Donc ça, j'imagine que c'est pour avoir les sources de ce qui a généré l'image au format plus ou moins SVG. Un petit peu comme dans Draw.io. Et on peut même l'exporter dans le presse-papier.
Ouais, je viens de voir qu'on peut sauvegarder dans un format de fichier qui s'appelle .excalidro. Ma question, c'était plus pour le sauvegarder le truc, puis le réimporter peut-être plus tard pour pouvoir le manipuler. Parce que j'aime pas trop laisser mes affaires sur un fournisseur cloud, ou alors, genre, t'as ton Excalidro hébergé, parce que je crois que c'est un logiciel libre, tu peux l'héberger. Et genre, tu t'envoies les sources à quelqu'un qui a son Excalidro. C'est plutôt comme ça que je l'entendais.
Oui, bah, tu peux faire un save to. Mais du coup, l'intérêt d'inclure le source dans ton SVG, ça, a priori, ça fait les deux, quoi.
Cool. Eh bien, le dernier outil, c'est Nicolas qui va nous en parler.
Ouais, bah, c'est très simple. C'est, depuis que j'ai mon Mac en M1, faire du Docker Intel, c'est un petit peu galère. Et on m'a parlé de Orb. Alors, c'est un produit qui est pas du tout open source et qui est payant si vous en avez une utilisation professionnelle. Moi, je me le suis payé parce que, bah, ça me simplifie la vie, et surtout, ça va beaucoup plus vite. Donc, si vous en avez marre de vos conteneurs Docker qui sont un petit peu lents sur Mac, je vous incite à regarder cet outil-là. Et au passage, il permet de faire de la VM traditionnelle. Et là, c'est pareil, faire de la VM sur les nouveaux Mac, c'est un petit peu galère. J'ai pas encore essayé cette fonctionnalité-là. J'espère qu'ils vont rajouter le support de Vagrant assez rapidement. Voilà. Et je crois que je suis le seul utilisateur de Mac ici. Donc,
Je vais troller un petit peu, mais si tu as les moyens de te payer un Mac, tu as les moyens de te payer OrbStack, en fait. Comme tous les outils qui sont payants sur Mac.
Ah oui, oui.
Il me semble que c'est plus culturel chez les utilisateurs de macOS de payer des outils que sur les utilisateurs de Linux, ce qui est peut-être parfois un désavantage pour nous, mais.
C'est encore une fois, qui est-ce qui paye le développement de ces outils-là? Donc, là, c'est une entreprise qui a derrière et ils vendent le produit, mais bon. Après, vu le rapport du prix de la machine par rapport au prix d'OrbStack, effectivement, ça doit être le prix d'une ou deux touches.
Pour info, c'est pour l'instant 8 € par utilisateur et par mois la version pro. Il y a une version gratuite, en effet, pour une utilisation personnelle. Et une version entreprise, on ne connaît pas les tarifs. Il faut contacter les sales, comme ils disent.
Je pense que c'est encore une boîte qui cherche au niveau du business model et ainsi de suite. Moi, j'ai pris directement l'abonnement d'un an parce que on économise 2 mois, je crois. Et c'est un coût relativement raisonnable par rapport à ce que ça me fait gagner comme temps. Le seul truc que je regrette, c'est que du coup, on peut pas mettre l'engine de Docker directement. Ils ont gardé l'engine de la Community Edition et comme j'ai aussi l'abonnement Docker Pro, je sais plus quoi. Bon, oui, j'aime bien cramer du pognon dans plein de licences logicielles. Et alors, ça me fait gagner du temps.
En même temps, c'est l'entreprise qui paye. Donc, de toute façon, voilà, si l'entreprise, oui. C'est pas l'entreprise qui paye ?
Alors, j'en ai même pas parlé à mon patron parce que je considère que si ça me fait gagner du temps à moi, autant que je le paye directement parce que le temps que je vais passer à négocier, je fais aussi un petit peu de freelance. Donc, pour moi, c'est tout bénef pour moi de le payer. Mais comme plein d'autres outils que je paye moi directement, je paye la suite JetBrains moi-même, d'autant plus qu'ils ont un abonnement pour particulier qui est beaucoup moins cher que celui de l'entreprise. Mais bon, je paye beaucoup d'outils moi-même.
C'est surprenant. Nous, on est plutôt, on est plutôt ouvert, mais on est plutôt dans la logique où si ça fait gagner du temps aux personnes, on préfère payer des outils. On n'essaye pas de négocier, sauf si c'est des outils à 300 € par mois, tu vois, mais si c'est de l'ordre de 8 € par mois, là, c'est bon, on le prend. En règle générale, on y gagne toujours plus. Vous avez un avis, René et Nida, là-dessus, sur OrbStack ou sur le fait de payer des outils en tant que pro?
René, où j'y vais?
Non, vas-y, je t'en prie.
D'accord. Est-ce que je tire à balle réelle ou pas?
Tu peux.
Non, en fait, personnellement, je vais peut-être dézinguer un peu de logiciel libre, mais mine de rien, une société que tu payes le produit, souvent, ça évolue vachement plus vite et t'as un support en cas de souci et c'est un vrai confort. Et moi, ça me dérange pas de devoir payer un outil qui fait le job, qui me fait gagner du temps. J'ai une licence Visio chez moi parce que c'est le logiciel que je maîtrise je me vois pas Draw.io et je l'utilise, mais il manque des choses. Je perds du temps avec Draw.io par exemple. Donc moi, ça me choque pas du tout de payer, surtout dans un milieu professionnel où ce qu'on recherche. Malheureusement, c'est la rentabilité. On n'est pas au pays de Casimir. On est dans une entreprise qui est là pour faire du pognon et qui nous donne nos salaires. Donc, tous les outils qui peuvent faire gagner du temps, gratuits ou libres, sont bons à prendre.
Mais je vais aller dans ton sens. En fait, quand on a des alternatives libres, et c'est le cas aujourd'hui, souvent on paye la licence. Notamment on a Bitwarden, on paye la licence Bitwarden parce que justement on veut que les solutions libres évoluent. Après on a une préférence pour l'utilisation des logiciels libres parce que c'est plus cohérent par rapport à nos valeurs à nous, et parce que on sait que si on veut aller héberger nous-mêmes la solution, on peut. Moi, je suis un peu en l'entre-deux, en fait. Je préfère payer les logiciels libres plutôt que payer des logiciels propriétaires. Tu vois, c'est plutôt ça mon truc, en fait.
Après, mon milieu professionnel fait que je travaille énormément avec de Windows, donc c'est pas la même approche. Et quand je vois des gens qui gueulent sur les licences Red Hat, moi, ça me choque pas du tout de payer une licence Red Hat. C'est Red Hat, j'achète pas un OS. Quand, pareil pour Microsoft, j'achète pas un OS, j'achète du support.
Bah oui, bien sûr.
J'achète du support. Red Hat, quand on paye Red Hat, on paye le kernel Linux aussi, parce qu'une grosse majorité des développeurs, le kernel Linux, sont chez Red Hat, enfin, sont salariés chez Red Hat. Donc, à force de vouloir rien payer, on peut tuer le logiciel libre aussi. À titre personnel, j'utilise Bitwarden et je paye aussi la licence.
Comme...
parce que le logiciel il est très bien.
Bah ouais, comme quoi on est assez proche. René.
Oui, après c'est pas incompatible, au contraire. C'est-à-dire, je suis assez dans cette démarche-là aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où la préférence ça va être pour des solutions où on va avoir les libres ou open source, on va pouvoir avoir les sources parce que ça c'est potentiellement plus adaptable, etc. Mais avec toujours ce, enfin, je pense qu'on le répète assez sur ce podcast, qu'il faut quand même contribuer parce que à un moment, il faut payer les gens qui maintiennent et qui font évoluer ces solutions-là, et enfin leur salaire en tout cas. Et voilà. Donc oui, prendre du support sur une solution qui est libre open source, c'est plutôt bien. Et après, ben voilà, moi j'essaye d'éviter au maximum les logiciels propriétaires, aussi pour des raisons un peu philosophiques. Après, j'en utilise aussi parfois parce que effectivement ça peut être un gain de temps ou parfois j'ai pas le choix parce que avec certains clients faut utiliser une solution propriétaire, voilà. Donc voilà. Après j'essaye vraiment de vraiment favoriser des solutions libres et open source et je contribue à différents logiciels comme vous le faites.
Oui, de toute façon, je crois qu'on a tous et toutes un logiciel propriétaire quelque part qui traîne. Oui.
Je l'ai souvent dit, hein, mais je sais aussi un petit peu intéressé, c'est que je travaille dans une entreprise qui développe un logiciel open source et je sais que c'est important que des utilisateurs payent. Et j'insiste bien là-dessus régulièrement. Et j'ai aussi revu un post sur le fork de Terraform. Et une personne a fait un article sur le fait que lui, il n'utiliserait pas OpenTofu, qui du coup est le nom du nouveau fork, en disant que effectivement, HashiCorp change le modèle de licence. Mais si aujourd'hui Terraform a cette envergure-là, c'est parce que ils ont tout développé autour, ils ont monté une communauté, ils ont monté plein de trucs qui sont gratuits, notamment la registrie des providers. Ils ont créé et maintenu plein de providers. C'est un boulot énorme. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir rémunérer ces gens-là. Et mettez-vous à la place d'un développeur qui travaille chez HashiCorp. Est-ce que vous préférez qu'il soit heureux et qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille ou qu'il se retrouve à faire de l'open source en mangeant que des ramen toute l'année? Mettez-vous à sa place et vous verrez, manger autre chose que des ramen, c'est bien. Quoi. Je parle des ramen déshydratés à réchauffer à l'eau chaude.
Hein. Oui, tu parles des nouilles déshydratées.
Bref, voilà, les trucs pas bons. Quoi.
Je vais aller dans le sens de Nicolas, en rajoutant un point de vue que j'aborde très souvent sur le logiciel libre, les failles d'OpenSSL. On les a tous vécues. Et pendant une époque, il avait des salariés, il avait des dons qui permettaient de faire le logiciel. Et après, à un moment donné, il n'y a plus assez de pognon et on a eu ce qu'on a eu, des alertes de sécurité. Et on utilise beaucoup de briques libres et open source, mais à un moment donné, il faut aussi être responsable et aider justement les briques hyper importantes à évoluer, à du moins pouvoir, comment pas évoluer, mais vivre. Parce que le nombre de projets qui sont décédés en open source et qu'on utilise encore, niveau sécurité, je pense que ça doit être une cata.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on n'a pas fini de parler de l'open source et du libre encore. Ça va être l'objet de plein de discussions à la suite. Alors,
Ah, attends, mais d'ailleurs... Si je veux juste rajouter un petit truc, c'est surtout dans un milieu pro, en fait. Parce que dans un milieu pro, la société, en principe, elle génère de l'argent. Oui. Et justement, l'avantage du libre, ben, c'est que si l'entreprise n'est pas rentable, elle peut ne pas payer. Mais à partir du moment où on devient rentable et que ça nous apporte une aide conséquente, ce logiciel, je pense qu'il faut le supporter. Et puis même, conceptuellement, si on base la stratégie de son entreprise sur un logiciel libre open source sans y contribuer, quelque part, en y contribuant, c'est une espèce d'assurance pour le fait que ça va vivre et pas se retrouver de banque dans l'eau du jour au lendemain. Donc, je sais pas, pour moi, c'est logique au niveau professionnel. Après, au niveau individuel, là, on peut un peu plus discuter. Mais de toute façon, je pense que les sociétés qui vivent du logiciel libre aujourd'hui, elles ciblent beaucoup plus les pros que les individus.
Oui, je pense aussi, tu fais bien de le rappeler, hein. Nicolas aussi voulait rajouter un truc. Pas trop long parce que.
Je vais essayer de faire une conclusion sur le sujet. Ce que je voulais dire, c'est dans ma boîte, on commence à réfléchir aussi à un modèle de financement des gens qui veulent nous supporter, mais qui veulent pas forcément souscrire aux produits. Donc, on la vend en version SaaS ou on-premise. Mais finalement, on a des clients qui nous prennent la version SaaS et qui l'utilisent pas en nous disant, mais au moins, on vous supporte. Et en fait, ils nous coûtent de l'argent tous les mois parce qu'ils consomment une VM, etc. Et on a commencé à réfléchir à une manière de qu'ils puissent nous payer pour nous financer. Ils ont un niveau de support à peu près équivalent que ces gens qui payent, mais sur leur version, machin, etc. Et finalement, c'est si vous avez une boîte qui fait de l'open source, réfléchissez à un business model qui puisse inclure ce cas d'usage. Voilà, et j'espère que personne d'autre n'a de choses à rajouter. Et de toute façon, on a enlevé les piles à René, donc il ne peut plus rien dire.
Exactement, René n'a plus de piles dans son casque. Donc, on va pouvoir passer à la clôture de cet épisode. Je ne vais pas te rappeler de venir t'inscrire sur le forum, hein, je l'ai déjà fait, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin. Moi, je vais vous dire encore une fois merci de votre participation à ce podcast. Et puis j'espère vous retrouver très vite. Et Nida, je t'en prie, comment c'était cette première expérience de discussion à 4 du coup dans le podcast?
Très bien, on a failli ouvrir la boîte de Pandore sur l'open source et un débat interminable. Non, ça a très très bien passé. Après, c'est juste le temps de trouver des marques. Et puis ça reste très intéressant puisque quand on est auditeur ou auditrice, on n'a pas l'interaction, on écoute et là c'est intéressant de pouvoir intervenir aussi.
C'est bon, t'as pas mangé donc tu reviendras, je pense.
Oui.
Très bien. Alors René, quel est ton mot de la fin ?
Ouais, je suis prêt. Alors j'ai eu un petit souci technique de, de batterie, pour rien cacher. Et j'espère que l'épisode plaira aux auditeurs. Et puis je suis très content de que Nida soit avec nous, une nouvelle tête. Et puis j'espère qu'elle sera avec nous pour les prochains épisodes. Et voilà.
Nicolas, il reste plus que toi, du coup.
Comme vous nous rejoignez déjà sur le forum, vous pouvez aussi venir nous voir sur YouTube. Vous verrez la tête des chiens qui ont aboyé en plein milieu de l'épisode et qui m'ont perturbé au tout début. Et j'espère que cet épisode vous aura intéressé et que vous viendrez écouter le prochain ou l'attendre avec impatience.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life.
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.